Vous écoutez On lit pour vous.
Les conséquences de la guerre sur les femmes et les filles. Guide explicatif sur le genre et les conflits. Un texte de la rédaction, paru le 20 mai 2026 sur le site ONU Femmes. Les dangers de la guerre pour les femmes et les filles vont en s'intensifiant. Dans le monde, les conflits s'éternisent, s'intensifient et se déroulent de plus en plus dans les villes et les communautés, plutôt que sur des champs de bataille lointains. Les habitations, les écoles, les hôpitaux et les refuges sont détruits, et les civils en paient le prix. Aujourd'hui, le monde est confronté au plus grand nombre de conflits actifs depuis 1946. L'an dernier, un rapport des Nations unies a alerté sur le fait que 676 millions de femmes vivent à moins de 50 kilomètres d'un conflit meurtrier. Cela correspond approximativement à la distance qui sépare New York de Newark, dans l'État américain du New Jersey, ou au trajet quotidien de millions de personnes entre Delhi et Gurgaon en Inde. Imaginez devoir fuir votre domicile sous une pluie de bombes et de missiles et que les services essentiels, comme l'eau ou l'électricité, s'effondrent autour de vous. Depuis la publication de ce rapport, d'autres conflits ont éclaté. Les bombes ne font aucune distinction entre les hommes et les femmes, contrairement aux conséquences de la guerre. Ce guide explicatif examine les raisons pour lesquelles les guerres modernes deviennent plus meurtrières pour les femmes et les filles et la manière dont les conflits creusent les inégalités existantes. Qu'arrive-t-il aux femmes lors d'un conflit? Pendant un conflit, les femmes et les filles sont davantage susceptibles de devoir quitter leur foyer, d'être exclues de leur école ou de leur travail, de perdre l'accès aux soins de santé et d'être confrontées aux violences sexuelles, aux traumatismes, à la faim et à la pauvreté. Quand les services s'effondrent et que les familles peinent à survivre, on attend des femmes qu'elles assurent la cohésion des communautés en s'occupant des enfants, des blessés et des personnes âgées, souvent tout en faisant face elles-mêmes à des dangers et à des traumatismes. Malgré le rôle essentiel qu'elles jouent en veillant à ce que les familles et les communautés survivent aux conflits, les femmes sont régulièrement exclues des prises de décisions politiques et des négociations de paix. Pourquoi les guerres modernes deviennent plus meurtrières pour les femmes et les filles? Les Nations unies ont indiqué que 37 000 civils avaient perdu la vie dans 20 conflits armés en 2025, dont près d'un sur cinq était une femme. C'était la première fois en 4 ans que le nombre global de civils tués avait diminué après 3 années de hausse des décès, mais certains pays ont connu la tendance inverse. Par exemple, au Soudan et en République démocratique du Congo, où leurs meurtres ont considérablement augmenté. Les 3 premiers mois de 2026 auront été l'hiver le plus meurtrier pour les femmes et les filles en Ukraine depuis la première année de l'invasion russe à grande échelle du pays en 2022. Entre janvier et mars 2026, 199 femmes et filles ont été tuées, soit plus qu'en 2025, en 2024 et 2023, au cours de la même période, ce qui traduit une évolution extrêmement inquiétante de la guerre moderne. Les guerres se déroulent de plus en plus dans des zones peuplées. Les conflits actuels se déroule souvent dans des zones peuplées et résidentielles plutôt que sur des champs de bataille lointains. Les habitations, les hôpitaux, les écoles et même les abris assignés sont endommagés ou détruits, ce qui expose les civils à des risques accrus de blessures et de morts. De nombreuses femmes et filles n'ont aucun endroit sûr où aller. Certaines sont tuées alors qu'elles se réfugient chez elles. D'autres sont blessées en fuyant les attaques, en cherchant de la nourriture ou en tentant de garder leur famille en vie tandis que les services essentiels s'effondrent autour d'elles. Les attaques de drones portent un coup terrible aux civils, notamment aux femmes et aux enfants. À Gaza, en Palestine, 38 000 femmes et filles avaient perdu la vie pendant la guerre en décembre 2025. D'autres se font encore tuer malgré un accord de cessez-le-feu. Les nombres les plus élevés de décès parmi les femmes et les enfants ont été enregistrés lors de périodes de frappes aériennes intensives, d'attaques de drones et de tirs de missiles, parallèlement à la destruction massive d'infrastructures civiles. Les bâtiments résidentiels représentaient plus de 95% de l'ensemble des dégâts infrastructurels recensés. Au Soudan, les Nations unies ont signalé une forte hausse des frappes de drones cette année, avec plus de 500 civils tués entre janvier et mars. Le droit international ne laisse aucune ambiguïté. Les attaques contre les civils et les travailleurs humanitaires constituent de graves violations des droits humains. Pourtant, les civils et les infrastructures civiles continuent d'être pris pour cible dans la guerre moderne, souvent en toute impunité. Mona, 13 ans, raconte comment elle a survécu à une double frappe aérienne à Gaza qui a tué sa mère, sa sœur et son frère, détruit la maison familiale et lui a laissé des séquelles qui ont bouleversé sa vie. Nous étions assis au 6e étage lorsqu'ils ont frappé le 7e étage, l'appartement de mon oncle. La femme de mon oncle hurlait « mes enfants sont morts ». Quand je me suis précipitée pour l'aider, ils ont tiré le 2e obus. C'est à ce moment-là que ma mère, ma sœur et mon frère ont été tués. Comment les conflits augmentent-ils les risques de violences sexuelles pour les femmes et les filles? Les violences sexuelles à l'égard des femmes et des filles augmentent considérablement en période de conflit. Dans les guerres qui font rage à travers le monde, les viols et d'autres formes de violence basées sur le genre ont pour but de terroriser les civils, de punir les communautés, de forcer les populations à se déplacer et d'imposer un contrôle. Au Soudan, où la guerre en est désormais à sa 4e année, le conflit a entraîné une recrudescence de violences sexuelles contre les femmes et les filles. Le nombre de femmes et de filles qui ont besoin d'aide après avoir subi des violences basées sur le genre a presque doublé ces deux dernières années. Il a quadruplé depuis le début de la guerre, selon le dernier rapport d'ONU Femmes. Des femmes et des filles sont violées et tuées chez elles, et lorsqu'elles tentent de fuir, de trouver de la nourriture et de l'eau et d'obtenir des soins médicaux, déclare Anna Mutavati, directrice régionale d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Est et Australe. Le Soudan n'est pas un cas isolé. Dans tous les conflits, la violence sexuelle continue d'être utilisée comme une arme de guerre, une tactique délibérée visant à terroriser, à humilier et à fracturer les communautés. Dans les zones touchées par des conflits, l'absence de poursuites pour ces crimes continue d'alimenter les cycles de violence et d'impunité. La peur et la stigmatisation sociale empêchent également beaucoup de femmes et de filles de signaler les violences et d'accéder à un soutien. Vous écoutez « Les conséquences de la guerre sur les femmes et les filles », guide explicatif sur le genre et les conflits, un texte de la rédaction paru le 20 mai 2026 sur le site ONU Femmes. Les Nations Unies ont vérifié plus de 9300 signalements de cas de violences sexuelles liées au conflit en 2025, un nombre en hausse par rapport aux 4600 cas signalés en 2024. Compte tenu des obstacles qui empêchent les signalements, les cas vérifiés ne sont que la partie immergée de l'iceberg. Le nombre réel devrait être bien plus élevé. Vous écoutez « Les conséquences de la guerre sur les femmes et les filles », guide explicatif sur le genre et les conflits, un texte de la rédaction paru le 2 mai 2026 sur le site ONU Femmes. Que sont les violences sexuelles liées au conflit? Les violences sexuelles liées au conflit ne sont pas des actes de violence aléatoires ou inévitables qui surviennent simplement lors d'une guerre. Il s'agit souvent d'une stratégie délibérée visant à briser les communautés et les liens sociaux, à terroriser et à déplacer les populations, ainsi qu'à prendre le contrôle. Elles peuvent inclure le viol, l'esclavage sexuel, le mariage forcé, la stérilisation forcée et le trafic des personnes à des fins d'exploitation sexuelle. Tout le monde peut subir des actes de violence sexuelle liés au conflit, mais les femmes et les filles représentent plus de 95% des victimes des cas signalés. Dans quelle mesure les conflits et les déplacements affectent-ils différemment les femmes et les filles? À la fin de l'année 2024, 123,2 millions de personnes avaient été déplacées de force en raison de conflits, de violences, de persécution et de violation des droits humains. Les femmes et les filles déplacées par un conflit sont confrontées aux situations suivantes. Un risque accru de violence basée sur le genre, d'exploitation et d'abus. Des refuges surpeuplés offrant peu d'intimité ou de sécurité. Un accès perturbé aux soins de santé, aux revenus, à l'éducation et à la protection. Des déplacements répétés et le risque d'être séparés de leur famille et de leur réseau de soutien. Moins d'un mois après l'intensification des combats au Liban, un quart des femmes et des filles avaient été déplacées. Malgré l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu le 17 avril, les familles au Liban continuent de se déplacer entre les refuges et leurs maisons, vivant sous la menace constante de la mort et dans la crainte de devoir fuir à nouveau. Au Soudan, il reste encore 4,3 millions de femmes et de filles parmi les populations déplacées à l'intérieur du pays et des millions d'autres ont fui vers les pays voisins. Les déplacements représentent un véritable dilemme pour les femmes et les filles au Soudan. Si elles restent, elle s'expose à la faim ou à la mort. Mais si elle fuit, elle s'expose à des viols, à des enlèvements et à des violences lorsqu'elle cherche de la nourriture, de l'eau et une aide médicale. Près d'un million de femmes et de filles ont été déplacées à Gaza. Beaucoup d'entre elles ont été contraintes de fuir 4 fois en moyenne. Même après l'annonce de l'accord de cessez-le-feu, en octobre 2025, les familles ont continué de vivre sans paix, sans dignité et sans accès à la nourriture et à l'eau. La guerre à Gaza a déchiré les familles et beaucoup de femmes doivent tenter de préserver ce qui reste de leur vie de famille après avoir perdu leur mari et des proches. Comment les conflits affectent-ils la santé physique et mentale des femmes? La faim, les blessures et l'effondrement des systèmes de soins de santé. En décembre 2025, le système de santé de Gaza s'effondrait sous le poids de la guerre. Les Nations unies ont indiqué que le système de santé dédié aux mères et aux nourrissons avait été décimé suite aux attaques d'Israël qui ont détruit 94% des hôpitaux et bloqué l'accès aux fournitures médicales. Pour les 11 000 femmes et filles blessées qui souffrent désormais de handicap à vie, il n'y a pas suffisamment de médecins, de médicaments, ni d'établissements de santé opérationnels. Les femmes accouchaient sans soins médicaux adaptés et les civils blessés peinaient à accéder ne serait-ce qu'à des traitements de base. Il était même devenu impossible de répondre aux besoins les plus élémentaires. Près de 700 000 femmes et filles à Gaza rencontraient des difficultés pour pouvoir obtenir des produits d'hygiène menstruelle dans des installations bondées ou dangereuses, et les serviettes hygiéniques étaient généralement introuvables ou inabordables. De plus, la famine se propageait rapidement. En décembre 2025, 790 000 femmes et filles étaient confrontées à la faim et à une insécurité alimentaire d'un niveau catastrophique à Gaza. Les femmes sont souvent les dernières à manger et elles mangent moins lorsque la nourriture se fait rare, ce qui les expose à un risque accru de complications de santé à long terme. ONU Femmes a demandé à une femme médecin de Gaza quelles étaient ses conditions de travail actuelles là-bas. « Ici, on se bat simplement pour survivre », a déclaré le docteur Iman Ayad, une étudiante en médecine qui travaille à l'hôpital d'Al-Shifa, bombardée à de nombreuses reprises. En raison de l'effondrement du système de santé à Gaza et de l'ampleur des besoins médicaux de la population, elle a déjà pratiqué des interventions chirurgicales alors qu'elle est encore étudiante. Au Liban, plus de 150 attaques contre les services de soins de santé ont été enregistrées entre le 2 mars et le 29 avril 2026, entraînant notamment la mort de membres du personnel et la destruction d'hôpitaux, des actes interdits en vertu du droit humanitaire international. La crise de santé mentale à laquelle les femmes sont confrontées en temps de guerre. Une autre crise dans la crise fait rarement la une de l'actualité. En Afghanistan, à Gaza, au Liban et en Ukraine, les femmes souffrent de troubles de stress post-traumatique, d'anxiété et de dépression, et elles n'ont qu'un accès limité, voire aucun, à des services de soutien en santé mentale. En Ukraine, les violences faites aux femmes ont augmenté de 36 % depuis 2022. 42 % des femmes sont exposées à un risque de dépression et près d'une femme sur quatre a signalé qu'elle-même ou quelqu'un d'autre dans son foyer avait besoin de soutien psychologique. Quelles sont les conséquences de la guerre sur l'emploi, les revenus et les soins non rémunérés des femmes? La guerre met à mal les économies, les moyens de subsistance et les systèmes dont les familles dépendent pour survivre. Les femmes sont souvent les premières à perdre un emploi rémunéré et les dernières à s'en remettre, car elles sont plus susceptibles d'occuper des emplois précaires ou peu rémunérés et d'assumer davantage de responsabilités en termes de travail de soins non rémunérés en période de conflit. À mesure que les écoles ferment, que les transports deviennent dangereux, que les marchés s'effondrent et que les services publics disparaissent, de nombreuses femmes perdent leurs revenus, mais aussi l'accès aux structures qui les aident à trouver un emploi rémunéré, à suivre une formation et à prendre soin de leur famille. Les femmes sont les premières à perdre leurs revenus et les dernières à s'en remettre. La guerre totale menée contre l'Ukraine depuis 2022 a fait reculer toute une génération de femmes ukrainiennes. En 2023, les femmes représentaient 72,5% des sans-emploi et gagnaient 41,4% de moins que les hommes. En 2024, seulement 48% des femmes déplacées occupaient un emploi, contre 71% des hommes. En raison des conflits, il est également plus difficile et plus dangereux pour les femmes de se déplacer, de travailler et d'accéder au marché. À Gaza, une famille sur sept dépend désormais des femmes pour sa survie, et les femmes continuent de se voir imposer des restrictions sévères en matière d'accès aux moyens de subsistance, d'où l'importance vitale d'une aide en espèces, d'une aide alimentaire et d'un soutien économique. Les préjudices économiques en temps de guerre ne se limitent pas à la perte de revenus. Les femmes perdent souvent leurs biens, leurs terres, leurs documents, leurs économies, leurs réseaux sociaux et leur accès à un crédit. Les déplacements peuvent également les contraindre à accepter des emplois dangereux, à s'endetter et à se faire exploiter. Vous écoutez Les conséquences de la guerre sur les femmes et les filles, guide explicatif sur le genre et les conflits, un texte de la rédaction paru le 20 mai 2026 sur le site ONU Femmes. Les femmes assument la plus grande part du travail de soins non rémunérés. Dans les zones de conflit, on attend souvent des femmes qu'elles comblent les lacunes causées par l'effondrement des systèmes. Elles doivent s'occuper des enfants, des malades et des personnes âgées tout en s'efforçant de subvenir aux besoins de leur famille dans des conditions impossibles. En 2024, les femmes ukrainiennes ont indiqué qu'elles passaient 56 heures par semaine à s'occuper de leurs enfants, une hausse par rapport aux 49 heures qu'elles y consacraient avant la guerre. Compte tenu de la fermeture des services de garde d'enfants, les femmes ont plus de mal à trouver un emploi rémunéré. Les femmes reconstruisent les communautés, souvent sans aucun soutien. Malgré les impacts inégaux et dévastateurs des guerres sur les femmes, celles-ci continuent d'assurer la survie et le relèvement dans les zones frappées par un conflit. De l'Ukraine à Gaza, en passant par le Soudan, les femmes et les organisations dirigées par des femmes nourrissent les familles, apportent un soutien médical et psychosocial et assument un rôle de premier plan dans la reprise économique au sein de leur communauté. En 2025, une entreprise sur deux en Ukraine avait été fondée par une femme. Pourtant, l'appui aux organisations de femmes diminue alors que les besoins augmentent. Selon un rapport mondial de 2025 publié par ONU Femmes, la moitié des organisations dirigées par des femmes et de défense des droits des femmes dans les zones de crise humanitaire pourraient disparaître au cours des 6 prochains mois en raison de réduction des financements. Comment les conflits perturbent-ils l'éducation des filles? À l'échelle mondiale, 119 millions de filles ne sont pas scolarisées. Dans les pays touchés par un conflit, les filles risquent deux fois plus de ne pas être scolarisées que celles qui vivent dans des pays non touchés par un conflit. La guerre vole l'avenir des filles. Quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine, Olesya Bozko, ancienne diplomate et fondatrice de Space of Knowledge, une organisation de la société civile basée à Kiev, qui œuvre pour l'innovation pédagogique, a pris conscience du fait que l'invasion à grande échelle de l'Ukraine était une guerre contre l'éducation. Les attaques des forces russes ont détruit plusieurs milliers d'établissements d'enseignement, y compris des écoles et des jardins d'enfants. En juin 2024, la scolarité d'environ 4 millions d'enfants en Ukraine avait été perturbée et approximativement 600 000 d'entre eux, d'entre elles, ne pouvaient pas du tout être scolarisés à domicile. Les filles ont plus de mal que les garçons à accéder à l'éducation ou à poursuivre leurs études lorsque le conflit perturbe les infrastructures, compromet la sécurité et réduit les revenus familiaux. En Afghanistan, les filles n'ont pas le droit de fréquenter un établissement d'enseignement secondaire. Un mois après leur arrivée au pouvoir en Afghanistan, en août 2021, les talibans ont interdit aux filles d'être scolarisées dans le secondaire. Toutefois, la crise démarre encore plus tôt. Près de 30 % des filles afghanes ne sont jamais scolarisées en primaire en raison de la pauvreté, de normes de genre restrictives et de problèmes de sécurité. Les familles retirent tant les filles que les garçons de l'école afin de contribuer aux revenus des ménages ou pour les préparer au mariage. Le fait de priver les filles d'une éducation peut avoir des conséquences à vie et enfermer des communautés entières dans des cycles de pauvreté. En 2025, 78 % des jeunes femmes afghanes n'étaient ni scolarisées, ni employées, ni en formation, soit près de 4 fois plus que chez les jeunes hommes. Les grossesses précoces devraient augmenter de 45 % cette année et la mortalité maternelle pourrait augmenter de plus de 50 %. Où sont les femmes lors des négociations de paix? Lorsque les femmes sont présentes à la table des négociations, la paix est plus probable, plus inclusive et plus durable. Des études l'ont démontré à maintes reprises. Au Mali et dans les régions frontalières du Niger, quand la participation des femmes locales à la prévention des conflits est passée de 5 à 25 entre 2020 et 2022, cela a permis de résoudre plus de 100 conflits liés aux ressources naturelles locales. Le processus de paix en Colombie a montré au monde entier ce qui se passe quand les femmes sont présentes à la table des négociations de paix, au lieu d'être reléguées au second plan. Après 52 ans de conflits armés, alors que la paix semblait impossible, des associations de femmes colombiennes ont refusé de baisser les bras. Dans les années 2010, alors qu'un processus de paix commençait à prendre forme, les femmes de tout le pays se sont mobilisées avec le soutien d'ONU Femmes. Elles voulaient une place à la table des pourparlers de paix où les conditions de paix et de la reprise allaient être négociées. En 2016, lors de la signature de l'accord de paix officiel, les femmes représentaient 20 % des membres de l'équipe de négociation du gouvernement national et 43 % des délégués des Forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC, soit la proportion la plus élevée de l'histoire moderne. Cela a abouti au tout premier accord de paix au monde à intégrer pleinement une perspective de genre, avec plus de 100 engagements en faveur des droits des femmes. Quand la paix a été signée sur le papier, les femmes ont exigé et obtenu des dispositions visant à protéger et à promouvoir les droits des femmes et à garantir que ce qui leur était arrivé ne se reproduirait plus jamais. Pourtant, si l'on considère la moyenne mondiale, les femmes ne représentent que 7 % des négociateurs et 14 % des médiateurs dans les processus de paix officiels. Trop souvent, ceux qui déclenchent les guerres sont invités à la table des négociations de paix, et ceux qui s'investissent véritablement pour la paix, comme les groupes de femmes, sont systématiquement et constamment mis à l'écart. Cela dit, les femmes n'abandonnent pas et ne restent pas les bras croisés. Elles continuent à assumer des rôles majeurs dans la consolidation de la paix à l'échelle locale. Par exemple, les femmes artisanes de la paix en Éthiopie, au Libéria et au Kenya ont influencé les processus et les accords de paix au niveau local, régional et national. Des femmes au Yémen ont négocié l'accès des civils à l'eau. En 2024, les signataires des seuls accords de paix à avoir été conclus au Soudan du Sud comprenaient des représentantes de groupes de femmes. Comment ONU Femmes soutient-elle les femmes et les filles dans les zones de conflit? ONU Femmes est présente sur le terrain dans les zones de conflit à travers le monde. Nous travaillons avec les femmes et les filles pour les femmes et les filles. Le soutien que nous apportons est à la fois vital et durable. Nous collaborons avec des organisations dirigées par des femmes et de défense des droits des femmes afin de fournir des services de protection, des soins psychosociaux, une assistance financière et des opportunités génératrices de revenus pour les femmes. Notre travail repose sur le principe selon lequel les femmes doivent avoir leur mot à dire dans les décisions qui affectent leur vie et leur communauté. Nous veillons à ce que les expériences et les besoins des femmes et des filles orientent les interventions humanitaires et les efforts de relèvement, tout en intégrant l'égalité des sexes dans les systèmes de planification, de coordination et de financement d'urgence. En tant qu'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et les droits des femmes, ONU Femmes a pour mission de promouvoir le programme pour les femmes, la paix et la sécurité, en veillant à ce que la participation, la protection et le leadership des femmes soient au cœur des efforts de paix et de sécurité. Ce que vous pouvez faire pour aider? Depuis bien trop longtemps, l'histoire, les médias et les décideurs ont donné l'impression que l'expérience de la guerre était la même pour tout le monde. Toutefois, quand des inégalités façonnent déjà la vie des femmes en temps de paix, les conflits ne font que les exacerber. Découvrez ce récit et partagez-le. Lancez des conversations et posez des questions. Où sont les femmes et les filles? Comment vivent-elles les conflits? Pourquoi ne sont-elles pas présentes dans les instances décisionnelles? Soutenez les organisations locales de femmes dans les zones de conflit. Faites un don à ONU Femmes pour nous permettre de poursuivre notre travail auprès des femmes et de protéger leurs droits partout dans le monde. C'était « Les conséquences de la guerre sur les femmes et les filles », guide explicatif sur le genre et les conflits, un texte de la rédaction, paru le 20 mai 2026, sur le site ONU Femmes.
La tante de George Washington. Un texte d'Yves Boisvert, paru le 4 juillet 2026 dans la presse. Le 15 août 1906, une manchette intrigante apparaît dans un entrefilet du Philadelphia Evening Bulletin. des reliques sacrées en vente pour une œuvre de bienfaisance, la fille du général Robert E. Lee met en vente deux tentes ayant appartenu à George Washington. Mary Custis Lee voulait amasser 10 000 $ afin de financer une maison de retraite pour les veuves des officiers de l'armée confédérée. On a eu beau les qualifier de sacrés, ces objets encombrants n'ont pas trouvé preneur. Il a fallu attendre 3 ans pour qu'un pasteur, Herbert Burke, achète pour 5 000 $ la tente où Washington dormait auprès de ses troupes et réunissait son état-major. Et encore, en échelonnant les paiements sur 5 ans, le père Burke voulait construire un musée de l'histoire américaine. Le projet a vivoté, mais la tente a survécu. 1 siècle plus tard, elle est exposée au musée de la Révolution américaine à Philadelphie. Quand j'y étais au printemps 2026, c'est avec un immense « oh » que les écoliers de 10 à 12 ans ont assisté au dévoilement de la tente qui survient après chaque projection d'un court documentaire. La mise en scène est parfaite. La tente de 250 ans, en tissu d'Égypte, apparaît en clair-obscur comme si le général Washington allait en sortir. L'itinéraire de l'objet, lui, est une sorte de condensé de l'histoire américaine et du mythe entourant Washington. Pour l'historien Scott Stephenson, directeur du musée, cette tente symbolise le sacrifice physique de Washington, alors un des hommes les plus riches de Virginie. Il possédait avec sa femme Martha un imposant domaine à Mount Vernon, était propriétaire de plus de 300 esclaves et spéculait lourdement sur les terres indiennes. Car, avant même d'être une révolte fiscale ou une lutte contre la tyrannie britannique, la guerre d'indépendance était motivée au départ par la volonté d'étendre les possessions des colons en territoire autochtone, ce que Londres interdisait. Or, pendant les 8 ans qu'a duré la guerre d'indépendance, 1775-1783, Washington est resté presque en permanence avec ses troupes, même au plus creux du conflit et des privations. Il faut savoir que les révolutionnaires, qui commençaient à peine à se nommer Américains, ont perdu la plupart de leurs combats. C'est une guerre d'usure que cette armée déterminée, mais mal équipée, mal entraînée, a finalement gagnée en grande partie grâce à l'appui de la France. Washington a assis son autorité morale en restant avec ses troupes tout le long, raconte M. Stephenson. Comme dans l'hiver terrible à Valley Forge, 1777-1778, où 2 000 soldats sont morts de maladie et de malnutrition. C'est en soi un tour de force d'avoir maintenu cette armée à travers les défaites. Dans son célèbre discours de démission comme général, en 1783, Washington vante cette improbable armée unie sous son commandement. Qui, sans l'avoir vécu, aurait pu imaginer que ces hommes venus de divers endroits du continent et fortement enclins à se mépriser et à se quereller entre eux, deviendraient immédiatement des frères d'armes? Après la mort de Washington, la tente, avec d'autres reliques, s'est retrouvé entre les mains de sa famille. Lui-même n'a pas eu d'enfants biologiques, mais a élevé ceux de Martha et leurs petits-enfants. Or, une des arrière-petites-filles de Martha Washington a épousé un certain Robert E. Lee. Les objets sacrés du père de la nation se sont donc retrouvés entre les mains du général à la tête de l'armée sudiste qui voulait faire sécession de la République. Lee habitait dans un domaine à Arlington, en Virginie, tout juste en face de la capitale américaine. Au déclenchement de la guerre civile, il doit l'évacuer d'urgence avant que les troupes de l'Union ne viennent l'occuper. Seule demeure Selina Gray, la bonne, esclave des Lee. Voyant que les soldats commencent à piller le domaine, elle informe le général nordiste de la présence de reliques de Washington cachées et sous clé. C'est ainsi que la tente est transférée en 1863 au bureau des brevets à Washington, où elle a été fièrement exposée comme un butin de guerre dérobé aux sécessionnistes. La guerre prend fin en 1865. La tente est repliée, entreposée. La famille Lee se rend jusqu'en Cour suprême pour récupérer son domaine. Pour 150 000 $, le gouvernement fédéral prend néanmoins possession du terrain pour en faire le fameux cimetière national d'Arlington. La tente? Elle est dans les voûtes des musées nationaux, Smithsonian. C'est finalement le président William McKinley qui ordonne de la redonner à la fille du général Lee en 1901. Voilà comment la demeure de soldats de Washington a servi à financer la retraite des veuves d'une guerre menée pour maintenir l'esclavage. L'ironie n'est pas si grande. Pendant la guerre de Sécession, 1861-1865, tant le Nord que le Sud revendiquent la figure de Washington. Pour le Nord, Washington est l'humaniste qui s'est battu pour les idéaux de liberté et qui a affranchi les Afro-Américains qu'il détenait en esclavage dans son testament, mais pas ceux de Martha. Pour le Sud, Washington prouvait que l'on pouvait être un homme admirable, vertueux, tout en étant propriétaire d'êtres humains. Dans un ouvrage fascinant, l'historien François Furstenberg, professeur à Johns Hopkins, montre comment on a construit le mythe de George Washington et comment on l'a entretenu tout de suite après sa mort. Washington était le ciment nationaliste qui a uni un nouveau pays autrement très divisé, fragile, pendant tout son premier siècle d'existence. Une division qui a culminé avec la guerre civile, mais qui connaît des répercussions encore aujourd'hui. Dans les éloges funèbres de Washington, reproduits dans les journaux, puis dans les livres d'école et dans sa première biographie largement romancée, Washington est érigé en monument de sagesse. Encore aujourd'hui, les Américains apprennent l'histoire du cerisier de Washington, considéré comme une pure fable par les historiens. Selon cette histoire, Washington, à 5 ans, aurait abattu un cerisier. Alors que son père allait punir un de ses esclaves soupçonnés du méfait, le jeune George a reconnu sa culpabilité. « Il n'était pas capable de mentir », écrit Mason Locke Weems, peut-être l'homme qui a le plus fait pour fonder le mythe du demi-dieu, un Moïse libérant le peuple américain des Anglais. Washington est très vite célébré, moins pour ses batailles comme général ou ses grandes réalisations comme président, que pour sa modération dans l'exercice du pouvoir et sa décision de ne pas s'accrocher à ses fonctions. On a davantage retenu ses discours d'adieu qui le distinguent des figures tyranniques du passé. Il était un César sans la dictature. Nul doute que son départ volontaire après 2 mandats a créé une tradition proprement révolutionnaire de transfert pacifique du pouvoir. Et un peu comme la Déclaration d'indépendance, universellement révérée à droite comme à gauche, la figure mythifiée de Washington est utilisée par toutes les factions politiques. Comment raconter l'histoire sous une présidence qui retire des panneaux relatant des moments sombres du pays? Il faut peut-être commencer par constater que l'histoire, partout, a toujours été un terrain miné politiquement. Il n'y a jamais eu de moment uni aux États-Unis. Scott Stevenson ne s'aventure pas sur le terrain politique en ce demi-quincentenaire. La majorité des gens acceptent l'idée que l'histoire américaine comprend des réalisations incroyables et des erreurs terribles, qu'ils doivent être enseignés et dont on doit tirer des leçons. C'est un message assez simple, en fait. Son musée veut plutôt mettre l'accent sur les interrogations que donner des réponses. Il y avait plusieurs perspectives à l'époque de la Révolution aussi. On estime en effet qu'un tiers des Américains étaient pour l'indépendance, un tiers était loyaliste et un tiers indifférent ou entre les deux. L'histoire n'est pas une vérité que vous excavez et que vous exposez. C'est un dialogue avec le passé. Ça dépend donc des questions que vous posez. Qui, par exemple, sait qu'en 1776, la Constitution du New Jersey donnait le droit de vote aux femmes et aux Noirs libres jusqu'à ce qu'on l'amende en 1807? Il ne faut pas craindre les côtés sombres, mais en préservant l'optimisme radical du moment. Dès que la Déclaration d'indépendance a été publiée, des Noirs et des Juifs y ont vu un outil pour la promotion de leurs droits. Ce n'était certainement pas la vision des signataires de la Déclaration, qui ne visaient en réalité que les hommes blancs en proclamant que tous les hommes sont créés égaux. Washington ne pensait certainement pas aux esclaves de sa plantation en se battant pour ce texte. C'est tout de même dans ces mots que les abolitionnistes de Frederick Douglass à Abraham Lincoln ont puisé leur inspiration. Vous savez, personne à l'époque de l'adoption de la Constitution, 1787, ne pensait que c'était une œuvre achevée, observe Scott Stevenson. Ça commence d'ailleurs par ces mots « pour créer une union plus parfaite ». Le terrain idéologique est assez vaste pour que chacun y plante sa tente. C'était « La tente de George Washington », un texte d'Yves Boisvert, paru le 4 juillet 2026 dans La Presse.
Six symptômes de démence qui peuvent se manifester des années avant le diagnostic. Un texte de Richard Sima du Washington Post, paru le 22 juillet 2026 dans Le Devoir. Les troubles de la mémoire et de la pensée sont les symptômes les plus souvent associés à un diagnostic de démence, mais des symptômes non cognitifs peuvent se manifester des années, voire des décennies auparavant. La maladie d'Alzheimer, qui représente de 60 à 80% des cas de démence, peut évoluer en trois grandes phases. La première peut commencer de 15 à 20 ans avant la manifestation de changements cognitifs. Pendant cette période, le cerveau commence à s'atrophier et les protéines mal repliées, caractéristiques de la maladie, s'accumulent. Des plaques de bêta-amyloïde se forment dans le cerveau, tandis que la protéine tau forme des enchevêtrements dans les neurones. Vient ensuite le trouble cognitif léger. Les personnes commencent alors à éprouver des problèmes perceptibles de mémoire et de cognition, tout en conservant par ailleurs un bon fonctionnement général. Puis survient le stade de la démence, marqué par l'atteinte de plusieurs fonctions cognitives, au point que la personne n'est plus en mesure de fonctionner de façon autonome dans la vie quotidienne. Les scientifiques pensent que les changements biologiques qui touchent le cerveau pendant les deux premières phases peuvent provoquer des symptômes émotionnels, sensoriels et physiques, parfois des années avant qu'un éventuel diagnostic ne soit posé. On peut présenter plusieurs de ces autres signes précurseurs sans avoir de symptômes cognitifs, souligne Timothy Chang, professeur agrégé de neurologie à l'Université de la Californie à Los Angeles. Les experts rappellent toutefois que la présence de symptômes précoces associés à un risque accru de maladie d'Alzheimer ne signifie pas qu'une démence se déclarera nécessairement. Environ 45% des cas de démence peuvent par ailleurs être évités grâce à des changements dans les habitudes de vie. Voici six symptômes précoces souvent observés chez les personnes qui recevront plus tard un diagnostic d'Alzheimer. Dépression et anxiété d'apparition tardive. La dépression est un facteur de risque reconnu de démence. Selon une étude menée en 2023 auprès de plus de 1,4 million d'adultes danois,
Le risque de démence était 2,4 fois plus élevé chez les personnes ayant reçu un diagnostic de dépression. Mais la dépression ou l'anxiété, qui se manifestent plus tard dans la vie, vers 55 ou 60 ans, peuvent aussi être le signe que quelque chose ne va pas. L'idée, c'est que certaines modifications des réseaux cérébraux qui surviennent au premier stade de la démence touchent également la santé mentale, explique Timothy Chang. Les changements sur ce plan peuvent donc constituer le signe de possibles modifications précoces du fonctionnement cérébral. Des chercheurs ont également constaté que ces symptômes de l'humeur peuvent accélérer l'évolution de la démence. Apathie, irritabilité ou agitation accrue. Les symptômes neuropsychiatriques comme l'irritabilité et l'agitation sont fréquents dans la maladie d'Alzheimer et peuvent apparaître avant le déclin cognitif. Une étude menée en 2017 auprès d'environ 1400 sujets a révélé que près de 31% des adultes âgés sans troubles cognitifs présentaient des symptômes de l'humeur, comparativement à environ 47% des personnes exposées à un risque accru de démence et à 54% de celles atteintes d'un trouble cognitif léger. Parmi les personnes chez qui on observe des biomarqueurs de l'Alzheimer, environ 50-60% présente au moins un symptôme neuropsychiatrique, indique Adam Turnbull, enseignant en psychiatrie et en sciences du comportement à l'Université Stanford. Il a récemment publié un article sur les perturbations de la régulation des émotions au stade préclinique de la maladie d'Alzheimer. Si vous vous sentez constamment en colère et de mauvaise humeur, que vous rabrouez les gens et que vos relations semblent marquées par des disputes récurrentes et une atmosphère négative, consultez un psychiatre gériatrique afin d'obtenir du soutien en santé mentale, recommande-t-il. Troubles du sommeil. Puisqu'un sommeil de qualité peut jouer un rôle protecteur, un mauvais sommeil peut être le signe que quelque chose cloche, souligne Adam Turnbull. L'apnée du sommeil et d'autres troubles du sommeil, notamment la somnolence diurne excessive, le syndrome des jambes sans repos et les troubles du sommeil liés au rythme circadien, sont associés à un risque accru de démence selon une méta-analyse de 39 études publiées en 2025. L'insomnie ou un sommeil nocturne insuffisant peuvent également précéder la démence. Une étude menée auprès de plus de 4400 adultes âgés sans troubles cognitifs a montré que dormir moins la nuit ou davantage le jour était associé à une accumulation accrue de bêta-amyloïde dans le cerveau, une caractéristique biologique de l'Alzheimer. À l'inverse, chaque heure supplémentaire de sommeil nocturne était associée à une diminution des taux de bêta-amyloïde. Les recherches laissent penser que le sommeil peut aider le cerveau à évacuer ses déchets, dont la bêta-amyloïde. Il n'y a évidemment pas lieu de s'inquiéter au sujet d'une sieste d'après-midi. En revanche, dormir beaucoup le jour et mal la nuit peut être préoccupant, précise Adam Turnbull. Perte de l'odorat. Les capacités olfactives sont liées à la santé cérébrale et la perte de l'odorat figure souvent parmi les premiers signes de maladies neurodégénératives, dont l'Alzheimer et le Parkinson. Environ 85% des personnes qui en sont au premier stade de la maladie d'Alzheimer éprouvent des troubles de l'odorat. Le système olfactif entretient un lien particulier avec le cerveau. Comparativement aux informations transmises par d'autres sens comme l'ouïe et la vue, les signaux olfactifs sont acheminés plus directement vers le cortex. Ils rejoignent ensuite des régions essentielles à la cognition, à la mémoire et à l'humeur, notamment l'hippocampe et l'amygdale. Fait étonnant, le nerf olfactif peut se régénérer et l'odorat peut s'améliorer grâce à l'entraînement. Des données préliminaires laissent même croire qu'un entraînement olfactif peut améliorer les capacités cognitives, y compris chez les personnes dont l'odorat est normal. Ralentissement de la marche. Pendant des années, on a considéré comme une conséquence normale du vieillissement le fait de marcher plus lentement, de faire de plus petits pas ou d'adopter une démarche plus écartée. Or, les recherches indiquent maintenant que ces changements peuvent précéder et annoncer une atteinte cognitive ou d'autres problèmes neurologiques. Une étude menée en 2024 auprès de plus de 1300 adultes en bonne santé de plus de 65 ans a montré que les capacités de marche, notamment la vitesse et la capacité d'effectuer un tour complet sur soi-même, pouvaient commencer à diminuer jusqu'à 10 ans avant l'apparition d'un déclin cognitif. Diminution de la force de préhension. La force de préhension est étroitement liée à un vieillissement en santé et pourrait être un meilleur indicateur de l'espérance de vie que la pression artérielle. Une force de préhension moindre est également associée à un moins bon état cognitif. Selon une étude récente portant sur plus de 190 000 adultes, chaque baisse de 11 livres, environ 5 kilos, de la force de préhension était associée à une hausse de 20% du risque de démence chez les hommes et de 12% chez les femmes. La force de préhension plus faible était aussi liée à des résultats inférieurs dans les exercices de résolution de problèmes et à une moins bonne performance lors d'une tâche de mémoire. Les médecins évaluent notamment la fragilité physique à partir de la force de préhension et de la démarche. En médecine, la fragilité physique signifie que l'organisme est plus vulnérable à la maladie et aux blessures. Elle constitue à la fois un facteur de risque de démence et un possible signe avant-coureur susceptible d'apparaître une dizaine d'années avant les premiers symptômes cognitifs. Quand consulter ? Si vous êtes une personne âgée et que vous remarquez ces symptômes, je ne paniquerai pas en concluant d'emblée à la démence, dit Adam Turnbull. Il est fort probable qu'il n'ait rien à voir avec un problème neurologique. Mais si votre mémoire ou vos capacités de réflexion vous inquiètent, surtout en présence de l'un ou l'autre de ces symptômes, il est important d'en parler à votre médecin. Les progrès récents des méthodes diagnostiques, notamment la tomographie par émission de position, la ponction lombaire et un nouveau test sanguin, permettent de détecter plus tôt les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, ce qui pourrait hâter la mise en route d'un traitement. Je pense qu'il est utile de se faire évaluer et d'obtenir l'avis d'un médecin qui pourra dire si la situation est préoccupante ou non, affirme Timothy Chang. Comment réduire son risque de démence ? Le risque de démence comporte une composante génétique, mais il existe tout de même de nombreuses façons de le réduire. L'an dernier, l'essai clinique américain US Pointer a montré qu'une combinaison d'exercices physiques, d'alimentation saine, d'activités sociales et de jeux cognitifs pouvait améliorer les fonctions cognitives des personnes âgées exposées à un risque de déclin cognitif ou de démence. D'autres études ont conclu qu'éviter l'alcool, maintenir sa vaccination à jour et protéger son ouïe pouvaient contribuer à préserver les fonctions cognitives. C'était 6 symptômes de démence qui peuvent se manifester des années avant le diagnostic. Un texte de Richard Sima du Washington Post, paru le 22 juillet 2026, dans Le Devoir.